Bonjour Jean-Pierre Pénaud.
Bonjour.
Président du Souvenir français de Pont-Vallin. Sur Radio Prévert, nous sommes contents d'être avec vous le 11 juillet 2024 et pour cause, aujourd'hui, dans la commune, hommage a été rendu à deux morts pour la France.
Exact, Rémi Dubois et Laurent Lecordier, deux résistants fusillés par la Gestapo.
Pourquoi vous avez pris cette décision-là pour ce jour-ci ?
Moi, je suis parti du principe que, bon, c'est vrai que ça tombe un jeudi, c'est en milieu de semaine, mais pour moi, un anniversaire, on le fête le jour de la date, donc sachant qu'ils étaient décédés le 11 juillet, bon, à la limite, il y a entre le 11 et le 12, bon, pour moi, une journée, ça ne changeait pas grand-chose, mais je voulais marquer le coup à la date anniversaire. Ordinairement, on profite de la cérémonie du 14 juillet avec le maire pour aller faire un dépôt de gerbes entre le maire, un adjoint, la déléguée départementale du Souvenir français, moi-même, à la stèle route du Mans. Là, je voulais marquer le coup avec la famille et dans la mesure où j'avais aussi fait des recherches pour essayer quand même de trouver un peu l'histoire de Rémi Dubois, quoi.
Et justement, elle nous intéresse, cette histoire. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aux auditeurs de Radio Prévert ?
Ben moi, Rémi Dubois, j'avais toujours entendu parler de Rémi Dubois fusillé par les Allemands, qui habitait au Cormier. Alors, il y a une version qui disait il était venu chez sa grand-mère. Il y avait un signe qui était convenu. Il devait y avoir un torchon de mis sur l'échelle qui montait au grenier. Donc, si le torchon est sur l'échelle, c'est OK, il n'y a pas de problème, les Allemands sont pas là, tu peux venir à la maison, mais si tu vois pas le torchon, les Allemands sont dans le secteur, donc tu viens pas. Et, soi-disant, le torchon n'aurait pas été mis, sa grand-mère ou sa mère avait oublié, Dubois est venu, il est tombé dans le piège. Et en fait, l'histoire n'est pas du tout celle-là. C'est que Dubois habitait à Pont-Vallin, au Cormier, sur la petite route qui passe devant le collège et qui va rejoindre la route de Cassé. Et il était veuf, ça je l'ai découvert aussi. Au moment des fêtes, il était veuf. Il avait ses deux enfants, Ghislaine qui avait 12 ans et Pascal, Pascal qui avait 11 ans. Et sa mère venait lui donner un coup de main parce que il y avait du travail à la ferme. Et en même temps, comme elle savait qu'il hébergeait des réfractaires au STO, et puis il y avait ce fameux Lecordier qui était passé, qui cherchait, qui était en fuite, quoi. Qui cherchait un peu à rentrer dans la résistance. Donc, en fait, Dubois, j'ai découvert par un travail qui avait été fait par des élèves du collège en 99 à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération. Et j'ai découvert les rapports de gendarmerie qui racontaient l'histoire, comment ça s'était passé, que les Allemands sont arrivés à 4h du matin. Et moi, Madame Cochin, la fille de Rémi Dubois, quand je l'ai rencontrée, elle se rappelle bien, même si elle avait 11 ans ou 12 ans à l'époque, elle se rappelle bien du trou noir du canon de la mitraillette qu'elle avait devant les yeux, les Allemands la menaçant, quoi. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire. En fait, les Allemands sont venus, Dubois s'est enfui pour prévenir ses collègues de se sauver, les Allemands leur ont tiré dessus. Je pense qu'ils ont tiré, ils ont rafalé, ils ont visé les jambes, puisque Dubois s'est retrouvé avec l'artère fémorale sectionnée sur une jambe, l'autre, la jambe fracturée, blessé à un annulaire, et Lecordier blessé aux jambes aussi. Lui, Lecordier, condamné à mort en Bretagne pour avoir participé à l'explosion d'un train de munitions allemand, en fuite, il n'a pas voulu, lui, sa fierté a voulu que les Allemands, c'est pas les Allemands qui le finiraient, donc il s'est suicidé avec le revolver qu'il avait dans sa poche. Mais au moment du 50e anniversaire de la Libération, sous la mandature de Pierre Lamballe, maire de Pont-Vallin, il avait été organisé à la mairie une réunion avec le général Ménard à l'époque, monsieur Réglin qui était, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il était instituteur aux Maisons Rouges, monsieur Dubin, résistant, monsieur Réglin, résistant, monsieur Marcel Doris, résistant, qui avait participé à un peu plein d'actions. Et c'est là que j'avais entendu parler d'un dénommé Genet qui avait essayé de rentrer en contact avec la résistance de Pont-Vallin, qui voulait participer. Et comme c'était l'adjudant de Courtis qui menait qui était gendarme à Pont-Vallin, qui menait la résistance, le réseau de résistance sur le secteur, il a dit, écoutez, amenez-moi ce Genet, je vais le recevoir, Je vais l'interroger, je verrai bien. Donc, Genet a rencontré De Courtis. De Courtis a dit au gars, il a dit, bah, écoutez, moi, il n'y a pas de problème. Il dit, il peut rentrer dans la résistance avec nous. Et en fait, quand on lit les documents après, et Madame Cochin, justement, la fille de... Enfin, Madame Dubois, la mère de Rémi Dubois, elle, quand les Allemands sont arrivés, en fait, c'était la Gestapo. C'est pas qu'au cinéma qu'on les voit, c'est le grand manteau de cuir, le chapeau feutre. Et elle a reconnu un monsieur en civil, un milicien parmi les Allemands. Et on pense que c'est Genet, et j'ai retrouvé dans des documents, apparemment, il était instituteur à Maraîcher. Alors, parce qu'on hésitait entre Genet et Vasseur, qui était milicien, qui était quand même bien connu de la résistance, qui a été condamné, il a été condamné au tribunal d'Angers. Et je crois qu'il était condamné à mort. Et bon, le général de Gaulle l'a gracié en 61. À l'époque, il vivait un peu reclus chez sa mère. Il avait disparu un peu du circuit. Donc, moi, quand j'ai vu Genet, bah, j'ai dit à tous les coups, c'est certainement pas Vasseur, c'est Genet qui a dû dénoncer Rémi Dubois. Quoi.
Voilà pour le contexte. Et après ce funeste jour, il y a vraiment eu choc au niveau de la famille, puisqu'on s'est entretenu avec le neveu de Rémi Dubois et de Victor Dubois aussi, la petite fille de Rémi Dubois, notamment Pierre Dubois et Marilyn Dubois, qui ont raconté comment cette histoire a infusé dans la famille, bien évidemment vu le drame, la tragédie, et c'était, on va dire, assez difficile de parler de ce genre de choses. Et vous, est-ce que vous avez souvenir de comment cette tragédie, et puis ben, peut-être d'autres aussi, hein, qui se seraient produits sur le territoire, comment on en parlait à l'époque? Est-ce qu'on en parlait volontiers ou pas, Jean-Pierre Pénaud?
Moi, ce que j'ai... Les échos, bon, les échos j'en ai eu, c'est par ma maman. Puisque, bon, ben, elle a récupéré, moi j'ai récupéré plein de documents, manuscrits. Quand j'ai énuméré au cimetière, au carré militaire, les fêtes de la résistance, bon, ça, c'est un truc qui... C'était un rapport journalier qui était fait par Madame Dubin, femme de Monsieur Dubin qui était résistant. Et Madame Dubin, moi, cette dame-là, je m'en rappelle, enfant, c'est une dame que j'ai toujours connue couchée. C'est une, je ne sais pas à l'origine quelle maladie elle avait, c'est une femme qui... Mais malgré la maladie, à sa façon, elle participait à la résistance aussi. Mais moi, ces fêtes-là de résistance, moi, c'est par ma maman, parce que, bon, mon grand-père, on n'en parlait pas beaucoup. J'ai eu, quand on parle un peu de l'Allemand qui a été tué aux touches, dans l'embuscade, j'en avais eu écho par Marcel Pivron, qui était dans la résistance à l'époque, bon, qui était jeune. Et on sentait, quand il nous le racontait, il était gêné. Parce
Pourquoi?
Que, bah, bon, après, tous les fêtes de résistance, bon, on a reproché, bon, je mets pas tout le monde sur le même pied d'égalité, on a reproché des atrocités aux Allemands, mais je pense qu'il y a des résistants qui n'ont pas dû se conduire non plus normalement. Et lui, moi je me rappelle, quand il nous a raconté cette histoire, parce qu'apparemment, ce soldat allemand était enterré dans un pré, à la va-vite. Bon, les Allemands sont revenus après pour le récupérer. Mais bon, moi les échos, moi j'en ai plus su par ma maman, parce que, bon, à l'époque, elle est née en 25, 44, ouais, elle avait 18, 19 ans. Moi, les photos que j'ai dans les documents, j'ai des photos des soldats américains qui sont à la Libération dans le chantier chez mon grand-père, qui avait monté une scène parce qu'il voulait faire du théâtre chez mon grand-père. C'est par ma maman que j'ai eu les documents aussi sur l'aide à la commune d'Étry dans le Calvados, entre le curé de Pont-Vallin et puis la municipalité d'Étry. Mais mon grand-père, il a été réformé au niveau de l'armée. Bon, il a pas fait 14, ben non, parce qu'il est né, oui, il est né en 1902, donc il a pas fait 14-18. Mais la guerre de 39, il avait des problèmes de vue, je crois qu'il a été un peu rappelé, mais il a pas dû faire grand-chose. Mais c'est pas mon grand-père qui nous parlait, ni même ma grand-mère qui nous parlait de 39. Moi, quand j'ai entendu parler les bombardements du camp d'Aubigné, Bon, mon père avait sa mère qui habitait Pont-Vallin. Mon père me disait, ouais, je me rappelle la nuit du camp d'Aubigné, le bombardement, le plat du plafond, il nous tombait dans la chambre. Ma mère, elle nous raconte ces trucs-là. L'explosion du pont du Lude. Bon, on le savait, on nous avait dit, le pont du Lude, les résistants, ils ont voulu le faire sauter. Puis nous, gamin, l'été, quand il n'y avait pas beaucoup d'eau dans la rivière, on allait sous le pont. Le trou, il fait 1,50 m sur 1,50 m. Vous ne faites pas tomber un camion dedans, il n'y avait qu'une roue qui tombait à chaque fois. Mais c'est pour ça que je disais ce matin, dans ces résistants, il y avait, c'est sûr qu'il y avait une bonne volonté, pas possible, mais il y avait de l'inexpérience, il y avait, peut-être que des fois, il y avait même, ils y allaient au culot. Mais non, moi, tout ce que j'ai eu d'écho, ça a été beaucoup par ma maman, pas par mes grands-parents.
Et justement, Jean-Pierre Pénaud, est-ce que vous avez demandé à votre maman pourquoi elle recueillait tout ça, puisque vous avez dit que vous avez récupéré des documents?
Oui, ça c'est vrai.
Pourquoi elle faisait ça?
Je sais pas, mais je vais vous dire, moi pourquoi je le fais?
Pourquoi faites-vous ça, vous aussi?
Moi ça m'est, je sais pas, mais moi il m'est jamais, enfin, je sais plus à qui je l'avais expliqué une fois, peut-être à Monsieur Péan pour le Maine Libre ou un truc comme ça. Mm-hmm. Moi j'ai fait les colonies de vacances pendant 16 ans, j'ai été dans différents lieux, je me suis toujours intéressé à l'endroit où j'étais. Bon, ça m'a permis aussi, c'est que j'ai eu des contacts après, des gens qui avaient racheté le bâtiment de la colonie où on était, en me disant, Monsieur Pénaud, voilà, c'est nous qui avons racheté le bâtiment. Est-ce que vous auriez des documents sur... Voilà, j'avais un petit fascicule avec l'histoire du bâtiment qui avait servi d'hôpital militaire aux Allemands pendant la guerre et tout. Donc, après, il y a des communes où... Bon, je vois, j'étais 18 ans dans le Loir-et-Cher, à Saint-Laurent-des-Eaux. Je me suis pas intéressé plus que ça à la vie de la commune où je résidais. Mais Pont-Vallin, ma mère, c'était... mais je vais vous dire, moi, quand elle est décédée, qu'on a ouvert des placards, on a retrouvé des documents qui n'auraient jamais dû être à la maison. Mais bon, on les a redonnés. Mais c'est vrai que...
Comme quoi?
Il y avait... C'était des archives diocésaines. Alors, c'était les actes d'état civil de la commune de Mansigné. Et de recueil, je crois. Mais bon, c'était des actes avant que l'état civil soit passé municipal. C'était les registres paroissiaux, quoi. Puis un jour, j'avais vu ça dans le placard. J'ai dit, mais comment ça se fait que t'as ça? Ben, il dit, j'ai demandé, j'ai été aux archives diocésaines, ils me les ont prêtés. Ben, je dis, oui, mais je dis, ça fait quand même un moment. Alors là, on les a rendus quand on a vidé la maison. Bon, c'est pareil, c'est ce que j'ai dit. Je dis, les archives diocésaines, je sais pas s'ils tenaient à jour tellement leur truc, parce qu'ils auraient dû s'apercevoir qu'il leur en manquait un bout. Mais bon. Non, ma maman a... Elle a toujours eu à cœur de... Je vois, quand, pour la commune d'Étry, avec l'aide qu'on leur a apportée, c'était pareil, j'avais passé un article dans le journal, et c'est un monsieur d'Étry, par l'intermédiaire, il a dû rechercher par Internet, puis comme eux, ils étaient concernés par le 80e anniversaire du débarquement, puisque c'est une commune qui a été prise et reprise. Bon, on nous a dit 21 fois en 15 jours, apparemment ça serait moins que ça, mais ils ont été libérés par un régiment écossais. Et là, pour le 80e anniversaire du débarquement, les vétérans de ce régiment-là, avec un soldat qui avait été fait prisonnier sur place à Étry en 44, qui est revenu à la cérémonie. Il a 98 ans et quelque chose. Le monsieur était là, il a tenu à être debout pendant tout l'hymne écossais à la cérémonie. Mais bon, ce monsieur-là, il a retrouvé mon article, il m'a contacté. Moi, je lui ai dit, écoute, je dis, voilà tout l'album de photos que j'ai. Moi, il y a des noms que je connais parce que ma maman m'a dit « ça, c'est un tel, ça, c'est un tel ». J'ai reconnu ma grand-mère, j'ai reconnu ma mère, ma tante, des trucs. J'ai scanné, j'ai envoyé. Et lui, de son côté, il a réussi à retrouver des gens qui se rappelaient à l'époque. Il a retrouvé même une coupure de journal par lequel la troupe de théâtre d'Étry était venue, reçue à Mansigné, jouée au théâtre à Saint-Jean-de-la-Motte. Et... Moi, ce monsieur-là est arrivé à Étry en 71. Le maire d'Étry est arrivé à Étry. Il a été tout surpris. En fait, il l'a reconnu. Il a dit, c'est vous qui m'apprenez la vie de ma commune, l'histoire de ma commune.
Wow.
Mais ça, c'est des documents. Bon, ça, c'est cet effet. Ma mère s'était trouvée impliquée dans par le théâtre, puisqu'elle faisait partie de la troupe de théâtre. Donc, la troupe de théâtre de Pont-Vallin faisait des représentations pour gagner de l'argent qui donnait pour aider les jeunes d'Étry, la troupe de théâtre d'Étry faisait des représentations pour essayer de récupérer de l'argent pour eux, quoi. Mais non, moi, j'ai toujours, moi ça m'a toujours intéressé, Et puis, bah, ça, à la limite, c'est naturel, quoi.
C'est tout naturel.
J'ai récupéré les documents de ma mère, et puis, bah, ce que je peux exploiter, j'exploite. Ce que je peux...
Justement, qu'est-ce que vous en faites de tous ces documents?
Ah bah, moi, c'est archivé, c'est à la maison.
Archivé, classé...
Classé, peut-être pas... Bon, je sais où prendre. Quand on avait fait, je me rappelle, quand j'étais élu, qu'on avait fait le truc sur le tramway, avec le tramway de la Sarthe, tout le parcours de la commune et tout, bon, ça, ces documents-là, j'en ai des dossiers, c'est dans un tiroir, les livres qui se rapportent, les plans, tout, ça s'est gardé. S'il y a quelqu'un... Moi, j'étais content que quelqu'un m'aide à monter mon exposition et tout. Donc moi, à la limite, s'il y a quelqu'un qui un jour voulait relancer un truc sur l'histoire du tramway à Pont-Vallin, avec les circuits, avec les machins, moi je suis prêt à collaborer, il n'y a aucun problème.
Revenons aux 80 ans de la Libération. Est-ce que dans vos documents dignes des archives, on va dire...
Non, pas nationales.
Allez, sinon presque. Est-ce que vous retrouvez des documents qui évoquent la libération, le débarquement, la libération, est-ce que vous avez ça?
Non. Non, c'est marrant, c'est que sur la libération de... Parce qu'en fait, Pont-Vallin aurait été libéré le 8 août, je crois. Oui, Le Mans a été libéré le 9. Mais il n'y a rien, on ne trouve rien. On trouve un peu, moi, dans ce que ma maman avait, il me semble qu'il y a... Bah, elle m'en avait parlé aussi... C'est plus à un moment donné, 41, quand il y a eu l'exode, que, où il est mentionné des passages de véhicules sur Pont-Vallin et tout. Bon, ma maman m'avait parlé aussi, ben, quand ils ont fait déplacer des réfugiés de la région parisienne, parce qu'apparemment, il y a des familles qui ont logé chez mes grands-parents. Ça, j'en ai entendu parler. Mais au niveau de la libération, là, j'avais une photo, je ne sais même pas où elle est à l'heure actuelle. C'était M. Boulet de Mansigné qui me l'avait donnée. C'est une Jeep qui remonte Mansigné avec 4 militaires, qui doit dater de la du moment de la libération. Mais non, au niveau de Pont-Vallin, non.
Et après, qu'est-ce que vous en avez entendu avant la libération et l'après-libération? Qu'est-ce que les habitants de la commune se disaient? Quel était leur état d'esprit? Comment ils vivaient ce moment historique?
Bah moi, après, comment je veux dire, si les échos, moi, les échos, s'il en a été question un peu, c'était par mes parents, parce que j'étais trop gamin. Mon père était de 27, donc à la Libération, 44, il avait 17 ans. Bon, lui, il l'a vécu, parce qu'il était originaire du Blanc-Ménil, dans la région parisienne, à côté du Bourget. Ils se sont trouvés, les Allemands les ont fait évacuer, parce qu'il y avait des risques de bombardement de l'aéroport du Bourget. Donc comme il avait, je crois que c'était un grand-père à Pont-Vallin, et il avait de la famille dans le Maine-et-Loire, à Douai-la-Fontaine. Donc ma grand-mère a embarqué mon père et sa sœur dans le Maine-et-Loire pour les mettre à l'abri. Et après, ils sont revenus, mon père est revenu plus sur 42. Ouais, 42, il avait 17 ans, puis qu'il a commencé à travailler. Bon, il avait travaillé comme maçon chez M. Picoulot à Pont-Vallin. Bon, je vous dis, lui, il se rappelle, parce que si on écoute l'histoire, ce qui était le plus risqué au niveau de Pont-Vallin, c'était le camp d'Aubigné, puisque le camp d'Aubigné contenait des munitions et tout. Donc Aubigné a été bombardé, donc mon père se rappelle du bombardement d'Aubigné. Bon, il se rappelle aussi, je crois, les bombardements de la gare de triage au Mans. Mais après, moi, quand j'en ai discuté avec ma mère... C'est ce qu'on disait, parce que elle me parlait des cousins, des trucs comme ça qui venaient. Bon, à l'époque, ma mère prenait des cours de piano chez un monsieur qui s'appelait Monsieur Biot au Mans. Mais elle dit des fois, une leçon de piano, elle était payée avec un lapin, elle était payée avec un poulet. Et c'est ce qu'on disait. Ces gens-là, en ville, ils ont plus souffert de la guerre, de l'occupation. Moi, ma mère, elle reconnaissait, en campagne, ma grand-mère élevait les poules, elle élevait les lapins, il y avait du jardin, il y avait des pommes de terre, il y avait des trucs, et puis... Mais moi, après, c'est les seuls échos que j'ai pu avoir de cette période-là, parce que, autrement, moi, ma mère m'a jamais dit « on a souffert pendant la guerre » ou des trucs comme ça.
Et donc, il y avait des gens comme Rémy Dubois, Victor Dubois, Laurent Lecordier, qui ont eu à être sous le feu des occupants Et puis, vous évoquiez donc des résistants également. Mais ces résistants, c'est bien connu, ils étaient dans la clandestinité, on ne savait pas trop.
Automatiquement, c'était des gens qui vivaient dans la clandestinité. Moi, j'ai eu l'occasion de savoir, bon, vous n'êtes pas sans savoir que la gendarmerie, à l'époque, était dans le milieu du bourg, où à l'heure actuelle, il va être construit des logements sociaux. Et j'ai toujours entendu dire que l'adjudant de Courtis, parce qu'à côté d'où je réside à l'heure actuelle, il y a des jardins, et si on regarde le plan du cadastre, on voit une parcelle de jardin avec une bande qui fait à peu près ce qu'on appelait à l'époque un passage de brouette. Et j'ai toujours entendu dire que quand les Allemands sont venus pour essayer de choper de Courtis, heureusement qu'il y avait ce jardin et ce passage de brouette, il s'est sauvé par derrière, il a sauté les murs et il est parti pour arriver à sauver. Moi, ce qu'on m'a raconté aussi, et j'en ai entendu parler, c'est que je disais ce matin, quand il y a eu le parachutage de 16 containers de munitions, bon, parachutage qui devait se passer à Château-l'Ermitage, à Montgenet, et les résistants racontaient, ils avaient planqué les containers sous une charrette de foin, avec les chevaux, et ils s'apprêtaient à aller faire le dispatchage. Alors, apparemment, ils traversaient le bourg, donc je ne sais pas par où ils allaient, et arrivés devant la mairie actuelle, un sidecar et un véhicule allemand débarquent du boulevard, enfin ce qu'on appelle le boulevard actuellement, pour tourner, disons, s'en aller vers Le Mans, parce qu'il n'y avait pas la déviation à l'époque, et ils se sont retrouvés nez à nez. Alors, il faut savoir que le bourg n'était pas goudronné, c'était des pavés. Les chevaux avec les fers, le fer sur le silex, c'était quand même un peu glissant. Le gars qui conduisait la carriole, il a dit « c'est mort ». Il dit « si le sidecar, il rentre dans les chevaux, la carriole, elle est sans dessus-dessous, nos containers, ils sont sur la route, et nous, on est collés au mur ». Et en fait, bah, les Allemands se sont arrêtés pile à temps. Les chevaux ont pris peur un peu, mais bon, le gars a réussi à maîtriser l'attelage. Tout le monde est reparti, les Allemands à droite, la carriole tout droit. Moi, c'est ces fêtes-là qu'on m'a raconté, mais après, je vous dis, bon, le coup des touches. Après, il y a eu, si, j'ai vaguement entendu aussi un transport de pilotes anglais ou un truc comme ça, qui est passé par Saint-Jean-de-la-Motte, pour aller rejoindre, je pense que c'était La Flèche, et puis après Angers. Mais non, je pense que sur... bon, si, j'avais entendu parler aussi, en fait, de résistance, devait y avoir un monsieur Roche, qui était dans la résistance aussi, dont les parents habitaient sur la route de La Feigne, et aux Brodières. Et apparemment, bon, ben, ils avaient fait une chose, c'est qu'il avait des armes, ils avaient planqué des armes, il y avait un genre de niche qui était dans le puits. Ils avaient enveloppé les armes dans du tissu huilé, mis dans cette niche qui était dans le puits, pour dire, bon, ben, quand les Allemands seront partis, on récupérera. Manque de bol, quand ils ont voulu récupérer, il y a quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un de chez eux qui savait où ils ont été vendus? Mais enfin, ils n'ont jamais retrouvé les armes, il y a quelqu'un qui était passé avant, quoi.
Que d'histoire à raconter, et comment raccrocher ça avec le présent, Jean-Pierre Pénaud?
Bah, moi, je pense que, à l'heure actuelle, de toute façon, si on perpétue pas cette mémoire-là, moi, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois dans des articles de journaux et tout, les jeunes, à l'heure actuelle, la guerre, ils la connaissent comment? Ils la connaissent à travers leur console de jeu. Pour eux, c'est un jeu vidéo. Je me mets un peu à leur place, parce que on peut pas se rendre compte. Moi, je sais pas si j'avais été gamin à l'époque, comment j'aurais vécu la période. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est que au travers des voyages qu'on fait, quand on les emmène à Romanche, quand on les emmène à Colville, surtout à Colville, quand ils arrivent au cimetière américain, et puis qu'on leur explique surtout, en leur disant, bon, ben là, sous le gazon, c'est pas que du gazon, il y a un corps à chaque croix. Là, déjà, ça coupe un peu le sifflet à quelques-uns. Quand on les emmène à la batterie de Longue, où les canons sont restés en place, on leur dit, bon, ben voilà, c'était quatre canons qui tiraient sur les bateaux du débarquement, c'était des batteries allemandes et tout. Bon, les gamins se rendent compte, mais... Bon, quand on voit quand même le travail qu'ils nous redonnent en retour, on sent qu'ils se sont pas contentés de ce qu'ils ont vu, ils ont été cherchés. On voit qu'ils vont essayer de piocher un peu quand même, un peu à droite, à gauche, autour, pour meubler leur travail. Mais non, moi je pense que C'est pour ça que j'essaye d'associer le plus souvent possible les enfants qu'on emmène en voyage, leur dire, ben, envoyer un courrier aux parents. Moi, je le fais souvent après la rentrée, en disant, pour le 11 novembre, en disant, ben voilà, votre enfant va participer par l'intermédiaire du souvenir français, et s'il pouvait assister à la cérémonie du 11 novembre, et l'année prochaine à la cérémonie du 8 mai. Donc moi je vois cette année, on a été quand même assez surpris parce qu'on a eu beaucoup d'enfants au 11 novembre. Bon, 8 mai peut-être un peu moins, il y avait peut-être la situation avec les ponts, les trucs comme ça. Mais non, non, moi j'essaye de faire en sorte que, de perpétuer cette mémoire, parce que sinon à un moment donné, de toute façon, ça passera.
Et quand vous dites que vous organisez des voyages à caractère pédagogique, est-ce que c'est systématique chaque année, vous le faites, vous prenez sur vous au souvenir français de faire ce genre de choses?
Ouais, on le fait. Bon, c'est vrai que maintenant, on va peut-être envisager une autre forme, parce que, bon, on part à 5 heures du matin, il y a beaucoup, enfin, c'est vrai, il y a de la route. Bon, cette année, on a été coincé. Bon, c'est l'année 2024 qui voulait ça, dans la mesure où c'était le 80e anniversaire. Moi, quand j'ai voulu retenir les places pour aller au musée du débarquement à Romanche, on m'a dit la journée est prise, complète. Donc on est allé au deuxième musée qui est à Romanche 360. C'est différent, c'est 20 minutes de film. C'est pas négligeable, moi j'ai fait beaucoup de photos. C'est pas négligeable comme c'est présenté. On a réussi malgré tout les enfants. On a un instituteur de Monsigné qui accompagne Monsigné. On a réussi à repasser dans les lieux où on passait avant dans à Romanche. Mais c'est vrai que maintenant, on commence à me dire, ben, ça fait un grand voyage pour... Alors, apparemment, ils voudraient essayer de trouver un lieu de mémoire. On me dit qu'en Mayenne, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas ce qu'ils pourraient... Enfin, après, ça sera à voir, ce qu'on va trouver. Moi, ce que j'ai vu vaguement sur Internet, il y aura un musée de la Résistance en Mayenne. Mais je ne sais pas, on verra. Mais non, on essaye de perpétuer ce voyage.
Et là, des cérémonies organisées avec la participation de la famille Dubois. Vous avez contribué à ce qu'ils se revoient, parce que c'est une grande famille maintenant.
Ah ben, je pense que ils se sont. C'est ce que je disais. Je dis à la limite, j'ai fait un peu un bout de cousinade, quoi. Parce que le premier qui m'a mis le pied à l'étrier, c'est quand. Parce que bon, moi je faisais la généalogie de ma famille, donc je suis abonné sur Généanet, un site internet, et quand j'ai commencé à chercher, bon, j'ai lancé une alerte pour le cordier, j'ai pas eu de réponse. Nulle part, personne ne s'est manifesté. Mais quand j'ai vu Dubois, à chaque fois aussi, la rubrique Dubois, ben, c'est par le site officiel de, je sais plus, les résistants ou un truc. Bon, on trouve les trucs habituels, fusillé le 11 juillet à Pont-Vallin, ça vous renvoie à le site de Souvenirs des Hommes ou un truc comme ça. Mais on n'en sait pas plus. Et puis, je suis tombé sur un arbre généalogique d'un monsieur Trichon. Alors lui, qui allait bien plus loin, je commençais à voir Madame Cochin, les enfants de Madame... Enfin, pas les enfants de Madame Cochin, mais Madame Cochin et son frère et tout. Ah, je dis ça déjà, parce que moi, le document, l'article de journal que j'avais, on me parlait de Madame Cochin comme étant la sœur de Dubois. Et puis on me dit, non, c'est pas la sœur de Dubois. Mais je dis, moi... Et puis à Pont-Vallin, quand ça a été fait les 50 ans, avec la municipalité, il n'y a rien dans les délibérations de conseil. Vous ne trouvez pas même l'organisation de la famille, qui on va inviter ou quoi. Rien. Alors moi, j'en étais resté, Mme Cochin, la sœur de... Enfin, oui, on me disait la sœur de Rémi Dubois. Et puis, ce monsieur, comme il avait laissé une adresse mail, j'ai dit, allez, je tente le coup. Je dis, puisque vous avez fait une généalogie de Rémi Dubois, est-ce que vous êtes membre de la famille? Et puis, je lui ai expliqué ma démarche à moi. Tout de suite, il est rentré en contact avec moi. On s'est rencontrés à Aubigny, parce qu'il avait sa mère qui est à la maison de retraite de Château du Loir, et puis je crois que c'est une cousine, ou je ne sais plus quel lien de famille il a avec quelqu'un d'Aubigny. D'ailleurs, la dame est là, elle est venue, et puis le monsieur aussi. On s'est rencontrés comme ça. Bon, lui, il faisait les recherches d'un côté, moi je faisais mes recherches de l'autre, et puis, le cordier, j'arrive à trouver un truc par lequel il avait, en cherchant dans les archives de Lambézélec, les archives départementales de la Bretagne, elles ne sont pas faciles à gérer. Je trouve qu'il avait une demi-sœur. Donc, demi-sœur habitant, enfin, morte à Allonne en 2007. Morte à Allonne en 2007, je dis, il y a bien quelqu'un de la famille qui l'a déclaré le décès et tout, parce que son mari, lui, était décédé beaucoup plus tôt. Et puis, manque de bol, bah, elle est décédée au centre gériatrique et psychiatrique ou un truc comme ça. Donc, c'est l'administration qui a fait la déclaration de décès. Mais par contre, j'avais l'adresse où ils avaient résidé. C'est là que j'ai appris qu'en fait, ils avaient résidé à Saint-James, que son mari, bon, elle s'appelait Guichard, que son mari était étalagiste. Alors, comment il est arrivé en Bretagne pour se marier? Parce que je crois qu'ils se sont mariés en Bretagne. Et comment il est arrivé en Bretagne? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le service militaire? Est-ce que c'est le boulot? Je ne sais pas. Et puis après, en discutant avec l'épouse de... Enfin, avec une membre du comité du souvenir français, Stéphanie, elle a cherché, et puis elle me renvoie un mail un soir, elle me dit, tiens, elle dit, j'ai trouvé l'acte de décès de M. Cochin, décédé à Maillé, habitant Saint-Gervais, alors Mme Cochin, ses enfants, donc les deux filles, les petits-enfants, et puis tout. Ah ben, j'ai dit, là, ça y est, j'ai déroulé la plotte, j'ai pris l'annuaire, j'ai regardé Saint-Gervais en blanc, j'ai trouvé Mme Cochin, j'ai dit, je tente le coup, je l'appelle. Et Mme Cochin m'a dit, ah ben, de toute façon, elle dit, je vous connais, il n'y a pas de problème. Et puis elle m'a reçu, et c'est là qu'elle m'a sorti des documents, puis qu'on a réussi à discuter tous les deux, parce que comme sa fille habite juste à côté de chez elle. Et puis, ben, par contre, j'ai senti, je pense, je lui ai dit, ben, vous aviez un frère, Pascal. Elle me dit, oui, il est décédé en 98, mais apparemment, je pense qu'il ne devait pas y avoir d'atome crochu, je ne sais pas, parce que j'ai pas, même du côté de son frère, j'ai personne qui s'est manifesté.
Archives diocésaines, archives, registres de naissance. Finalement, Jean-Pierre Penaud, comment vous cataloguez? Vous me parlez de généalogie, mais c'est plus que ça. C'est même des recoupements dignes d'enquêtes policières, finalement.
Oh, pas tout à fait, quand même. Non, on va pas m'appeler Colombo.
Presque. Presque. Le Colombo de l'histoire, tiens.
Le Colombo de Pont-Valin.
Exactement. Mais je pense que vous avez... développer des compétences pour tirer le fil.
Mais je pense que c'est... Enfin, moi, je sais que quand je me suis mis à l'informatique, quand... Après, je me suis rendu compte, j'ai dit, t'as bien fait d'avoir pris un forfait illimité, parce que quand je me suis mis dans la généalogie de la famille, bah, à un moment donné, j'ai dit, ah, bah, attends, il faudrait peut-être que je pense à manger, parce que on voit pas... Et il y a des trucs, c'est vrai que... Bah, on vous en donne un petit bout... Puis le petit bout, ben vous l'exploitez. Ah ben mince, le petit bout, il vous en redonne un petit bout. Ben vous êtes toujours tenté d'aller chercher. Bon, après, l'avantage qu'il y a, c'est ça, c'est que quand vous pouvez encore... Moi, là, je peux dire que j'ai eu de la chance, c'est de tomber sur Mme Cochin, bon, qui a toute sa tête, parce que ma maman, bon, ben, malheureusement, avec le problème qu'elle a eu, elle avait perdu complètement... Elle avait, pour ainsi dire, Alzheimer, à part quelques moments où elle avait de la lucidité. Mais moi, trois jours avant qu'elle décède, quand je lui ai présenté une photo d'Étrie, où il y avait mon grand-père, donc son papa, avec un monsieur que je pensais être monsieur Pringot, et puis c'était une photo couleur, datée de 1974, donc j'ai envoyé cette photo-là à Étrie, et puis j'ai dit, bah, si vous pouvez arriver à identifier la personne qui est sur la photo avec mon grand-père... Puis c'est là qu'on m'a dit, c'est un monsieur Leroux marié avec une fille Pringot. Et quand je l'ai dit à ma maman, c'est les dernières paroles sensées qu'elle a eues. Elle m'a dit, oui, c'était la marchande de laine. Bon, tu sais, j'avais toujours entendu parler, ouais, bah, Suzanne Pringot, marchande de laine, mercière, je ne sais plus comment elle disait. Et puis, quand on est allé à Étrie, on a refait des photos, parce que comme j'en avais des photos de l'époque, en 45, et puis 2024, on a dit, bah tiens, cette photo-là, ils se sont fait photographier comme ça, nous, on va se faire refotographier au même endroit. Et puis, bah, le monsieur, quand je suis revenu, je lui ai dit. Bah, je dis, tu vois, je dis, c'était bien Suzanne Pringot, et je dis, le monsieur, c'est monsieur Leroux. Elle m'a dit oui. Et dans son répertoire de téléphone, j'ai retrouvé la page Leroux, avec le numéro de téléphone, les indicatifs de l'époque, et entre parenthèses, écrit à l'encre rouge, Suzanne Pringot. Donc, elle se rappelait, et le monsieur m'a dit, oui, elle était mercière. Oh, je dis, vous savez, mercière, marchande de laine et tout. Je dis, ma maman était dans la couture, elle mettait tout dans le même sac. Mais non, c'est... Puis elle, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce goût pour... Moi, c'est pareil, j'avais, en l'interrogeant... parce que bon, je savais qu'elle avait été à l'école libre à Pont-Valin, la maison où est monsieur le maire maintenant. Et c'était l'école libre. Elle avait d'ailleurs retrouvé une nièce d'une institutrice qu'elle avait eue. Et... Je l'entendais toujours parler de l'école libre et tout. Je dis, mais vous étiez combien dans cette école? Vous étiez nombreux? Ben, elle me dit, on était 28. Ah oui, j'ai 28. Il y avait combien d'instituteurs? Elle me dit, un. Elle dit, on était tous dans la même classe. Alors, ben, j'ai dit, On en fait beaucoup à l'heure actuelle avec les classes de niveau. Mais je dis à l'époque, ben, elle me dit oui, dit les grandes, elles aidaient les petits. Et dit nous les grandes, ben, on allait s'occuper un peu des petits, les moyens, ben, ils s'occupaient un peu des autres et tout. Mais ça, ça a été ben, le temps qu'elle était à la maison de retraite, quand elle avait des éclairs de lucidité ou des trucs comme ça, j'essayais de. Parce que je m'aperçois que maintenant, ben, il y a des fois avec l'employé de mairie, quand on ne savait pas, on disait attends, bouge pas, on prenait le téléphone, allô au moment, tu peux me dire pour ça, hop, on avait. Mais je dis là maintenant, ben, je dis moi j'ai un trou. Il y a un manque. Et c'est vrai que ben, je suis obligé d'aller. Ben, je vais rechercher dans les papiers s'il y a quelque chose, je suis content.
Donc il faudrait qu'on parle les uns avec les autres, surtout les aînés.
Moi je pense qu'il faut que celui qui sait, il ne faut pas qu'il garde, il faut transmettre, parce qu'à un moment donné, de toute façon, tout ça se perd. Je voyais l'autre jour, on discutait comme ça entre nous, et maintenant ça y est, le nom je l'ai dans la tête. Mais on cherchait un commerçant, un ancien cordonnier où habitait Monsieur Goffaut. C'était M. Firmin, le cordonnier. Mais moi, j'ai cherché le nom, et l'autre jour, le nom m'est revenu comme ça. Mais c'est vrai que, à la limite, à l'heure actuelle, dans Pont-Vallin, pour me rappeler, enfin, des personnes pour se rappeler d'anciens commerces et tout, j'ai beau avoir que 74 ans, je vais faire partie bientôt des plus vieux qui se rappellent des anciens commerces de Pont-Vallin, parce que la population s'est renouvelée. Et puis, bah, moi, c'était un peu l'handicap quand je suis revenu en 2006. Moi, je ne reconnaissais plus beaucoup de monde quand je suis revenu dans ma commune.
Et on vous a dit merci à plusieurs reprises en ce 11 juillet 2024. Et je pense qu'on vous dira encore merci parce que je viens d'avoir un éclair de lucidité aussi. Moi aussi, en entendant votre témoignage, Jean-Pierre Pénaud, je me suis dit, Jean-Pierre Pénaud, ce serait bien que vous donniez des conférences.
parce que je ne pense pas. Bon, je n'ai pas assez de... Enfin, si on peut dire, j'ai passé de matière pour certains trucs. Non, je veux pas non plus, si on peut, enfin, on peut dire, me pousser du col. Moi, je fais en fonction de ce que j'ai, en fonction des faits que je peux, disons, authentifier aussi. Parce qu'après, c'est facile aussi de broder. Et puis, à un moment donné, on va vous dire, oh, mais attends, tu nous racontes ça, mais on s'aperçoit que n'y a rien. Non, moi, je pense que faut. Moi, ce que j'ai, ce que. Si je peux m'appuyer sur quelque chose, bon ben, vous voyez, là, déjà, pour Dubois, entre ce qu'on nous disait une partie, puis quand vous avez les documents sous le nez, ben, vous dites, ben, c'est pas tout à fait comme ça. Bon, ben, c'est le cas de le dire, ça remet l'église au milieu du village, quoi.
Et on va terminer, puisque je sais qu'avec votre passion pour cette histoire qui finalement nous dépasse et que vous voudriez qu'on aide aussi à transmettre aux nouvelles générations, qu'est-ce que vous retenez de ce contexte des 80 ans et comment voulez-vous que le devoir de mémoire se perpétue, puisque je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent que vous êtes président du Souvenir français à Pont-Vallin.
Ben moi je pense déjà, si les gens viennent, parce que bon, la commune communique assez là-dessus, mais je pense déjà si les gens continuent d'assister aux cérémonies du 11 novembre, du 8 mai, bon, 14 juillet, c'est un peu une cérémonie, enfin, si on peut dire à part. Moi, quand j'étais sur Gaillac dans le Tarn, je suis parti en 2006, j'ai connu la célébration du 14 juillet qu'à partir de 2005. La commune ne le fêtait pas le 14 juillet. Parce que bon, c'est vrai que c'est pas une fête, disons, c'est pas une. C'est différent de l'armistice ou du débarquement, enfin, du 8 mai. Le 8 mai ou le 11 novembre, c'est pas une fête, c'est pas une grande bataille militaire ou un truc comme ça. Mais moi, je pense déjà, si les gens viennent assister à ces cérémonies-là, amènent leurs enfants à assister à cette cérémonie-là, je pense que déjà, on perpétue. Si la cérémonie doit rester un rassemblement, à la limite d'anciens, si vous avez que les porte-drapeaux, les présidents d'associations mémorielles, et puis après, si on retrouve, c'est vrai que quand on regarde, c'est la plupart du temps, on retrouve souvent les. Quoique, je me suis aperçu, avec le temps, il y a des nouvelles têtes qui arrivent dans les cérémonies. Bon, ça fait plaisir. C'est pas forcément des très jeunes, mais ça fait plaisir quand même. Moi, je pense qu'il n'y a que comme ça. Il faut que les gens se disent, si on veut transmettre, il faut assister, il faut essayer de s'impliquer. Et impliquer les enfants. Moi, je pense que les enfants, déjà, s'ils s'impliquent... Moi, je vois, quand on a fait pour le 11 novembre, on avait le message de... C'était de Mme Miralles, la secrétaire d'État aux anciens combattants, ou un truc comme ça. J'ai donné le message à l'école, aux élèves qui faisaient, bah, qui vont rentrer en 6e, là, qui étaient en CM2. J'ai demandé à Mme Foucault si les enfants pouvaient le lire, qui se débrouillent, s'il n'y en a qu'un qui veut le lire ou s'ils veulent se mettre à plusieurs. Et je me suis retrouvé avec 4 jeunes filles. Apparemment, ça s'est... il y avait un ordre de données au départ, ça s'est fini. Mais elles ont, et les 4 jeunes filles se sont impliquées. Après, on a impliqué d'autres pour les dépôts de gerbes ou les trucs comme ça. Il y en a qui ont assisté au carré militaire. Bon, le carré militaire, c'est un peu différent parce que, bon, je ne veux pas obliger que les enfants viennent à pied tout seuls jusqu'au bout de la commune. S'il y a un parent, bon là, il y avait un parent qui pouvait amener des enfants. Mais moi, je pense qu'il n'y a que comme ça. Ces enfants-là, moi, je vois, je les ai recroisés. Bon, ben, on me reconnaît, on me dit bonjour. Bon, ce n'est pas le fait qu'on me dise bonjour, hein, mais les enfants... bon, ben, ah, on se rappelle, M. Pénaud, c'était le monument aux morts, ou M. Pénaud, c'était à Romanche, ou un truc comme ça. Et je pense que si ces enfants-là... c'est peut-être, on verra bien l'année prochaine, ils vont être en 6e, on verra la cérémonie du 11 novembre, s'il y a encore des enfants là qui viennent assister aux cérémonies, en plus de ceux qui seront rentrés en CM2 cette année. Quoi. Et je pense que c'est surtout ça. Moi, je pense qu'il faut que ces enfants-là gardent ça en mémoire, parce que le jour... Moi, je dis, c'est pareil, on disait, ah ben, on va tout regrouper, on fera une cérémonie dans l'année, point barre, on mélange, on met le 8 mai, on met le 14 juillet, on met le 11 novembre, on met le... Alors déjà, on n'arrive pas à s'entendre pour le 19 mars et le 5 décembre, on fait un bloc, et puis on fera qu'une cérémonie. Et apparemment, vous voyez, ils ont essayé de faire un bloc entre 19 mars et 5 décembre pour la fin des combats en Algérie, ils ont mis une date entre les deux, apparemment, ça ne marche pas, alors... Non, moi je pense qu'il faut garder, chaque cérémonie garde sa spécificité, et puis bah, faire en sorte que ça se perpétue. Quoi.
Et je pense que le 11 juillet de chaque année, vous aurez une pensée pour Rémi Dubois et Laurent Le Cordier, chaque fois que l'occasion se présentera, et que vous aimeriez également que les auditeurs de Radio Prévert se souviennent d'eux, ainsi que de leurs camarades, qui sont morts pour la France.
Ben disons, habituellement, bon, c'est vrai que là, on l'a fait parce que j'ai tenu à ce que... Parce qu'on n'aurait pu le faire que dimanche prochain, au 14 juillet, comme on fait d'habitude. Moi, j'ai dit, un anniversaire... Bon, on dit une fête, ça se souhaite la veille. Moi, un anniversaire, c'est le jour. Donc, j'avais mentionné, j'ai dit, 11 juillet, 80e anniversaire de la mort de Dubois, puisque c'était 44. L'année prochaine, on fera un dépôt de gerbes à la stèle, qui sera au 14 juillet. Parce que bon, on fera pas deux cérémonies. Bon, puis c'est vrai que c'est pas évident. C'est des jours en semaine. Il faut penser que il y a des gens en activité. Donc, on n'est pas tous retraités dans des associations. Mais non, c'est vrai que on n'a jamais oublié Dubois et Le Cordier. Pour il y a toujours eu un dépôt de gerbes, au moins au 14 juillet. Bon, si ça s'est peut-être pas fait au 14 juillet, ça s'est fait au 8 mai ou un truc. Mais ils ont toujours été honorés.
Et nous, on a été enchantés d'avoir échangé avec vous sur cette page de l'histoire, et c'est réconfortant de savoir que vous pensez qu'il est important que l'histoire se transmette, le devoir de mémoire se perpétue, et j'imagine qu'on aura encore d'autres moments pour venir vous déranger pendant quelques minutes, pour recueillir votre parole, parce que ces enregistrements, eh bien, on espère que ceux qui nous suivront, eh bien, ils en prendront soin et voilà. Qu'ils les feront écouter, parce qu'on pense bien en faire d'autres avec vous, aux nouvelles générations.
Ben voilà, moi, c'est ce que je dis. Hein, faut passer, à la limite, on passe le témoin. Et qu'ils sachent le saisir. Et puis, ben, s'il y en a que ça intéresse, moi, je ne suis pas contre, hein, qu'ils viennent me demander. Et moi, je suis prêt à transmettre. Il n'y a aucun problème. Au contraire.
Et on sera à côté, tout à côté, pour enregistrer ces échanges-là. Oui, ce serait aussi pas mal de voir la chose sous cet angle d'échange entre vous, et pourquoi pas des enfants, des élèves ou d'autres personnes curieuses,
oui, voilà,
d'en savoir plus sur cette page de l'histoire. On va faire ça sur Radio Prévert avec Jean-Pierre Pénaud. Merci, Monsieur le Président du comité de Pont-Vallin du Souvenir Français.
C'est moi qui vous remercie. Je vous avais invité, vous voyez, j'avais pas de réponse et je suis agréablement surpris.
On vous préparait une surprise.
Je vous remercie.
C'est nous qui vous remercions, Jean-Pierre Pénaud. Merci infiniment.
Merci.